Je suis heureux ce soir d'avoir entendu qu'on parlait du nord, de l'est, mais du sud.
Amen.
Amen. Merci. Oui, je suis heureux de pouvoir être là après des centaines de kilomètres, de pouvoir être parmi vous et surtout de savoir que c'est la 10e convention biblique. Je suis heureux parce que souvent quand on m'invite, je pars tout seul. Ben, cette fois-ci, j'ai pu amener mon épouse Evelyne et une de mes filles, Rachel. Alors, c'est aussi un privilège pour moi de pouvoir me déplacer avec la famille. Et puis, c'est vrai que ce thème de la croix, j'étais en train de regarder cette croix de mon fauteuil, c'est vrai qu'on l'a laissé peut-être un peu en oubli. Et il faut de nouveau regarder le message de la croix au travers de la parole de Dieu. Je suis heureux de pouvoir être là parce que je découvre cette région aussi et de découvrir ce lieu, de cette porte ouverte, de pouvoir être là et de pouvoir, c'est vrai, avoir la Bible. Et nous allons voir ensemble ce sujet sur la croix, mais surtout sur le substitut. Alors, parfois, et je m'adresse déjà un peu à Didier, à Eric, à Samuel, qui prendront chacun un message. Souvent, vous savez, vous êtes invité à prêcher dans une convention, vous prêchez le dernier. Et c'est toujours le même sujet. Alors, voyez ce que je vais vous dire, c'est que il vous reste des fois juste 2 ou 3 versets à traiter. Alors là, je suis le premier. Bon, Olivier, merci. Et je ne voudrais pas non plus, autant Didier, à Eric et à Samuel, donc leur laisser, n'est-ce pas, quelques versets. Au fait, est-ce que le Seigneur n'a pas dit « ne vous lassez point », n'est-ce pas, de répéter toujours les mêmes choses ? Alors, peu importe si ces versets, nous allons les entendre demain soir ou dimanche, peu importe, je sais que ça sera profitable pour nous, ok ? Alors, ce que je vais vous proposer, parce qu'il y a tellement de versets, c'est vrai qu'ils parlent de ce substitut, la croix. Alors, ce que je vais vous proposer dans quelques instants, c'est de lire quelques passages qui seront pour nous quelques points de repère, et puis je citerai d'autres versets pour que vous puissiez les noter calmement, et puis sentez-vous libre de me demander si vous n'avez pas noté tous les versets bibliques, ok ? Alors, petite précision aussi, vous me voyez avec cet appareil. Donc, je vous le signale dès le départ, je ne suis pas en train d'écouter le match qui est en Allemagne en ce moment. On ne me transmet pas non plus le message au travers de cela, Vous l'avez compris, c'est pour les enregistrements. Donc, que ça soit clair dès le début. Et puis, plongeons nos regards, donc, dans les Écritures. Je voudrais d'abord qu'on aille dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 53. Et vous voyez déjà de quoi je vais parler, Ésaïe 53, merci. Et puis je vous inviterai à rester dans l'Ancien Testament, dans Genèse 22. Et si vous permettez un dernier point de repère pour nous, nous irons dans 1 Corinthiens 15. Ésaïe 53. Voilà sans doute le prophète Ésaïe qui est sans doute le prophète le plus messianique. Il présente l'arrivée du Messie, mais il présente au travers des 66 chapitres aussi tout le ministère de Christ, toute la glorification et il parle aussi de son retour. Voilà un Ésaïe, ce prophète messianique. Et bien sûr, Ésaïe dont parlera des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce chapitre 53 d'Ésaïe, bien sûr, résonne constamment à nous quand nous pensons à la croix et aux souffrances de Christ pour chacun de nous, donc de notre Seigneur sur la croix. Et il y a certains versets qui nous concernent ce soir concernant ce sujet, le substitut, n'est-ce pas ? Alors, je m'arrête, par exemple, ici au verset 5. Il a été blessé pour nos péchés, donc ça veut dire que c'est moi qui aurais dû être blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour nos iniquités, Donc c'est moi qui aurais dû être brisé. Le châtiment qui nous donne la paix, eh bien, il est tombé sur lui. Donc la condamnation, le châtiment devait tomber sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Je m'arrête au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors que ce châtiment, n'est-ce pas, aurait dû tomber sur moi. Je choisis aussi le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Si vous permettez, je saute des versets, je reste sur le sujet de ce soir, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Si vous permettez la fin du verset 12, parce qu'il a été livré lui-même à la croix, à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Donc, déjà tous ces versets nous montrent que c'était prophétisé déjà 9 siècles avant qu'il allait être cet homme de douleur, comme il est décrit aussi dans Ésaïe 53. Et déjà ces versets nous fixent quelque part. Ce n'est pas lui qui devait mourir sur la croix, mais c'est quelqu'un d'autre. Rappelons-nous, et merci Caroline pour le chant que tu as interprété. Si vous avez écouté tout ce qu'elle a chanté, c'était « Moi ». Il était à ma place. Donc, le substitut, le voilà, c'est lui. Alors, je vous ai dit, nous allons aller dans Genèse 22. Pourquoi ? Parce que nous allons trouver là le mot « substitut ». Même s'il n'est pas prononcé, c'est « à la place de ». Nous sommes au moment où Abraham va être de nouveau éprouvé par Dieu. Genèse 22. La Bible dit qu'il a dit à Abraham, « Tu vas maintenant me donner ton fils en sacrifice. » Et la Bible dit qu'il a obéi, il garde le silence, il prend avec lui son fils, il prend avec lui tout le nécessaire pour le sacrifice. Il voyage sans doute des heures et des jours. Et puis bien sûr, le fils, c'est normal, à un certain moment, il se tourne vers son père et je peux m'imaginer lui dire, « Mais papa, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et il garde le silence, il y a juste une phrase qu'il prononce, « Dieu pourvoira. » Vous pouvez vous imaginer la scène entre ce père et ce fils. Et voilà que tout est préparé, tout est là. La Bible dit que le fils a été placé sur cet autel. La Bible dit que Abraham a pris le poignard pour le sacrifier. Et à ce moment-là, Dieu a dit, « Arrête !» Et là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Et c'est ça le mot que Dieu utilise ici. Alors, cherchez avec moi ce Genèse 22. Genèse 22. Et je peux vous dire qu'on pourrait le remplacer immédiatement par ce mot « substitut ». Genèse 22. J'arrive, pardon, je vous l'ai annoncé à l'avance pour que vous le cherchiez, mais je suis le 22. Oui, merci, versets 12 et 13. Il est dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez bien la suite. Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Retenez ce terme qui est la première définition du mot « substitut ». Et je vous ai dit qu'on verrait un dernier passage dans 1 Corinthiens 15. Merci de votre patience. Cherchons ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 13, merci. Voilà Paul qui va s'élancer dans quelques instants, sur des dizaines de versets en train de nous expliquer la résurrection. Et avant de nous expliquer tout ce que comporte la résurrection, il rappelle ce que c'est que l'évangile, l'essentiel. Si vous voulez un jour utiliser en 2-3 versets l'essentiel de l'évangile, vous relisez ces premiers versets de 1 Corinthiens 15. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui est là, qui nous concerne ce soir? Je lis verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme moi-même dont je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, nous pourrions ajouter, selon les Écritures, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et vous l'avez compris, je m'arrête ce soir surtout sur ce verset 3. Il est dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Je crois que ce mot substitut, on ne le trouve jamais dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous savons que c'est un terme juridique. Et je me suis aperçu en regardant de près la parole de Dieu qu'il y a des termes juridiques. N'oublions pas que au départ nous sommes tous des condamnés à mort. Donc c'est qu'une sentence a été prononcée. Est-ce que quelqu'un va nous sauver? Est-ce que quelqu'un va nous affranchir? Est-ce que quelqu'un va payer la rançon? Etc, etc. Et tous ces termes, c'est des termes juridiques, ne l'oublions pas. Alors je comprends pourquoi la croix, oui, mon substitut, le Seigneur mon substitut, le substitut. On entend parler souvent du substitut de la République, quelqu'un qui prend la place, oui, ou les fonctions de quelqu'un, n'est-ce pas? Il prend tout d'un coup la charge de, j'ai noté ici, il se met à la place de, j'ai noté que ce terme français, ce mot français substitut vient du latin substituere, qui veut dire quand il y a une permutation de personnes. Je pense que ça vous est arrivé, vous êtes dans un train, alors il y a ceux qui aiment, n'est-ce pas, rouler dans le sens du train, les autres qui non, préfèrent comme cela. Et puis ça nous est tous arrivé de dire, d'entendre quelqu'un, ça vous dérangerait pas de changer avec moi, de permuter. Et c'est ça. Et je prends la place d'eux à la place de l'autre, n'est-ce pas? Et c'est je me substitue à cette personne. Je prends la place d'une permutation. Alors là, je comprends mieux Christ. Pas du tout, il ne méritait pas cette mort. Il ne méritait pas cette condamnation. Et il prend ma place, telle que notre sœur l'a chanté, Barabbas, n'est-ce pas? Il prend la place d'eux. Alors, j'ai noté ici que, bien sûr, dans ce terme substitut, ben, on peut l'utiliser au niveau d'une personne, au niveau d'un objet, d'un médicament, des fois, d'un système. Mais je me suis aperçu aussi, en regardant de près ce mot substitut, qu'il faut quand même que ça soit quelque chose de volontaire, d'intentionnel, à dessein, n'est-ce pas? C'est un désir profond d'eux. Et n'oublions pas que Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, l'éternel, n'oublions pas qu'il décide à un certain moment, Dieu le Fils, de quitter la gloire. Il décide de lui-même de venir sur terre. La Bible dit, et Philippiens chapitre 2, que de lui-même il n'a pas arraché d'être égal à Dieu, mais il décide de s'humilier jusqu'à la croix, de lui-même. Ça a été volontaire de sa part. Et il va prendre donc notre place. Alors, je voudrais aussi apporter une précision. Et je regardais de nouveau, c'est vrai, cette très belle conférence biblique cette année sur la croix. Et je crois que du temps où nous vivons, il est important de faire cette petite remarque. Je vois ici ce soir que le sujet c'est « La croix, notre substitut ». Alors, la petite remarque que je fais, vue dans le monde religieux que nous vivons, c'est pas la croix, n'est-ce pas, qui va me sauver. C'est pas l'objet de cette croix qui va me sauver, n'est-ce pas? C'est important de le rappeler. J'ai noté ici que c'est pas cette croix qui, n'est-ce pas, me sauve, donc qui va remplacer, qui va me donner ce salut. Mais j'ajoute autre chose aussi. C'est pas non plus n'importe quelle personne qui est crucifiée sur la croix. Vous savez que quand Jésus-Christ est venu sur terre, les Romains étaient là et que déjà ils avaient en mouvement, n'est-ce pas, ce supplice de la croix. C'est pour cela que Jésus-Christ parle souvent à ses disciples qui, si quelqu'un n'est pas prêt à se charger de sa croix et de me suivre, il n'est pas digne de moi. Et on voyait les crucifiés. Alors ce n'est pas quelqu'un qui est crucifié sur la croix aussi qui me semble, mais c'est Christ crucifié sur la croix. C'est important de le signaler. Alors je vous demande pardon, mes sœurs et mes frères, parce que je vous ai vu ce soir avec des croix, huguenotes plusieurs. Et je sais que c'est important, comme tu l'as rappelé, avec tout ce voyage que vous avez fait, et vous avez vu un peu tous ces camisards, tous ces huguenots, tous ceux qui ont été persécutés à cause de leur foi. Et je sais que c'est important, n'est-ce pas, d'avoir ce signe, hein, de la croix. Mais n'oublions jamais, hein, ce n'est pas ce signe qui me sauve, ok? C'est important. C'est important parce que, vous savez, il y a encore aujourd'hui un grand culte des reliques. Alors, ces derniers temps, au sein de notre Église, nous avons régulièrement des cours de doctrine le samedi et des cours de formation biblique. Et nous avons eu deux ou trois cours sur les reliques. Et alors, je me suis aperçu que, au niveau de la croix, oh là là, aujourd'hui, on pourrait, j'ai noté, avoir au moins une quinzaine de croix aujourd'hui. Hein. C'est incroyable, on trouve des morceaux de croix dans le monde entier, partout. Je viens de Toulouse et si vous venez à Toulouse, à l'église Saint-Jérôme, alors vous allez là et on vous dit, oui, ça c'est un morceau de la croix. Oui, mais vous allez dans un autre endroit, etc. Je vous dis, on pourrait en faire une quinzaine de croix aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, c'est pas un bout de la croix qui nous sauve, c'est important, n'est-ce pas? La croix, notre substitut. Bien sûr, celui qui est crucifié, Jésus-Christ, qui est notre substitut. Cela veut dire donc, et nous l'avons vu ce soir, qu'il prend ma place. Ésaïe 53:5, Ésaïe 53:7-10-11, je crois le verset 12. La Bible dit qu'il a été blessé à ma place. Il a été brisé à ma place. Il a pris sur lui toutes mes iniquités, tous mes péchés, et la condamnation est tombée sur lui. Le substitut. Il a pris ma place. Je vous disais tout à l'heure, et peut-être qu'il est bon maintenant de le développer un peu, je vous disais que tout le Nouveau Testament, et bien sûr l'Ancien Testament aussi, mais on se concentre sur le sacrifice de Christ aujourd'hui, alors on reste sur le Nouveau Testament. Et tout le Nouveau Testament nous parle de termes qui nous rappellent la loi, la justice. Alors, le substitut, bien. Mais je vous disais tout à l'heure que nous sommes des condamnés à mort au départ. Il y a eu péché, tu as péché, la loi dit, et tu es condamné. Nous voilà des condamnés. Alors j'ai noté ce Jacques chapitre 2, verset 9, qui nous le dit. Oui, mais gloire à Dieu, j'ai ce Romains chapitre 8, verset 1, qui me dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui en sont en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est beau. Et c'est parce que, justement, je vais me placer en Christ, en lui, que là, à partir de ce moment-là, comme la condamnation, puisque Dieu a frappé Christ à ma place, alors je ne suis plus condamné. Il a été condamné à ma place. Une condamnation au départ. Bien. Alors, c'est comme si le juge était là devant moi et me disait, mais bon, est-ce que quelqu'un alors a payé une rançon pour toi? Est-ce que quelqu'un donc t'a racheté, puisque tu me dis que tu n'es plus condamné? Oui! Amen! Et alors c'est là où je lis des versets comme 1 Corinthiens, n'est-ce pas? J'ai ici le racheté dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Je lis un Matthieu 20:28. Il est dit qu'il s'est livré en rançon pour tous. La rançon a été payée. Nous sommes habitués depuis des dizaines d'années à avoir des otages partout. Pensons à ce qui se passe en ce moment en Israël. C'est horrible. Et pour un soldat israélien qui a été saisi, pris par les Palestiniens, n'est-ce pas? On demande toutes sortes de rançons finalement. Est-ce qu'il va être libre? Je n'en sais rien, n'est-ce pas? Mais c'est pour que nous comprenions ce que c'est qu'une rançon. Qui va payer pour que ce soldat soit libéré, délivré. Jésus-Christ a payé cette rançon. Il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit que la rançon a été très élevée, très dure. Bon, tu es quelqu'un à payer la rançon pour toi, oui. Alors il y a un autre terme juridique. Alors, puisque tu étais condamné, maintenant tu es un affranchi. Et la Bible dit donc, et vous connaissez au moins ces deux passages dans Jean 8, 36, dans Galates au chapitre 3, n'est-ce pas, où il est dit, Galates 5, Christ nous a affranchis. Ce verset de Jean 8, 36 où il est dit, si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas libre. Et voilà que nous étions dans la position de condamné. Et quelqu'un a pris la place pour moi, mon substitut. Et je deviens un affranchi. Ça y est, je suis libre. Si vous permettez, j'ai noté deux ou trois autres termes qui me rappellent toujours le système juridique. Le juge se tourne vers moi et me dit, mais qui t'a défendu? Et alors, je me suis rappelé de ce verset qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. La Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Il est notre médiateur, dit la Bible. Deuxièmement, il est notre intermédiaire. Troisièmement, il est mon avocat. Est-il le vôtre? Amen. Alors, il m'a défendu. Et me voilà affranchi. C'est lui qui a tout fait. Pour que je devienne quoi? J'ai noté ici Galates chapitre 4 verset 5, un fils d'adoption. J'étais sur ce marché du monde, il est passé et puis il m'a racheté. Parce que la Bible dit on s'est livré tous à Satan. Et alors c'est normal qu'il nous rachète. Nous lui appartenons, nous devenons son fils d'adoption, nous rentrons dans sa maison. Éphésiens chapitre 2. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, vous n'êtes plus des enfants du dehors, mais vous êtes des enfants de la maison de Dieu. Et alors le dernier point dans ce domaine juridique, je pense à, mais tu es justifié, tu es juste. Et la justification vient par Christ. Quand Dieu nous regarde, si nous sommes en Christ, il nous regarde juste, parce que nous avons l'habit de la justification de Christ en nous. Nous sommes justifiés par lui. Et alors, bien sûr, je ne voudrais pas oublier ce dernier terme juridique qui est utilisé dans la Bible. Puisqu'on parle de la croix ce soir, demain, dimanche. N'oubliez pas ce que le Seigneur a prononcé à la croix dans Jean 19, verset 30. La toute dernière parole qu'il a prononcée, c'est « Tout est accomplé ». Mais si on veut être au plus juste dans la traduction, c'est « Tout est payé » ou « Tout est acquitté ». Vous savez, dans le domaine grec et romain, on le fait pratiquement plus aujourd'hui, mais quand on avait une dette, on arrivait avec toute sa monnaie, on arrivait pour payer, et on arrivait avec sa facture. Et puis on payait. Et puis quand la personne avait compté le dernier centime, alors c'est là où il pouvait, avec son sceau, marquer « Tout est acquitté, tout est payé ». Et ça, c'est le terme que Jésus-Christ a utilisé sur la croix. Tout est accompli, acquitté, payé. Est-ce que chacun de nous, nous avons peut-être un péché qui n'a pas été confessé? Est-ce que nous avons quelque chose qui n'est pas en règle avec le Seigneur? La Bible dit, nous venons de le voir, il est notre substitut. Il est mort, il a été frappé à ma place. Il a tout réglé, tout payé pour nous. Alors, continuons si vous permettez, pendant quelques minutes. Quand je pense à Jésus-Christ, puisqu'il a tout accompli pour moi, il a tout fait pour moi, ben, il fallait alors qu'il devienne entièrement homme. Il fallait qu'il revête tout de l'homme pour que Dieu puisse voir tous les péchés de l'humanité sur lui et pour qu'il puisse donc mourir sur la croix pour moi et que Dieu puisse frapper toute l'humanité à ma place sur lui. Sans doute que vous avez lu cette histoire, je l'ai lu dans un journal évangélique il y a des années, mais de ces deux frères qui étaient partis à la fête du village. Et il y a eu malheureusement une bagarre. Et voilà que le fils aîné est parti quand il voyait tout ce qui se passait. Le fils, le plus jeune, est resté. Et il s'est bagarré. Et puis, il a blessé fortement une personne qui était à cette fête. Et quand il est rentré chez lui, son frère l'a vu arriver. Il était ensanglanté, il avait les habits déchirés, il était sale. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Et le jeune frère l'a raconté à son frère aîné. Vous savez ce qu'il a fait, le frère aîné? Il a dit à son frère, déshabille-toi, tout. Je prends tes habits, je prends tout. Et je m'en vais à la fête. Et vous pouvez vous imaginer ce qui est arrivé. Il a été arrêté à sa place. Il a pris sa place, le substitut. Et quand je regarde l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ pendant les 33 ans de son ministère sur terre, c'est ce qu'il a fait. Il a tout revêti de l'homme. Et c'est pour cela que dans ce passage de Ésaïe 53, il est dit qu'à un certain moment, Dieu a détourné le regard de son Fils. C'était une horreur de voir ce péché. La Bible dit que le jour de la crucifixion, il y a eu 3 heures de ténèbres sur terre. Dieu qui avait détourné son regard de toute l'humanité, en train de regarder son Fils rempli des péchés de chacun de nous. Il est notre substitut. Il a pris toute notre place. Alors j'ai noté des versets comme, par exemple, pour que l'on comprenne cela, j'ai noté ce verset que nous connaissons tous, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 21. Il est dit qu'il est devenu péché pour nous. Pour qu'il devienne péché pour nous, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, Christ en rentrant dans le monde, il a dit « Je viens pour faire ta volonté ». Et dans Hébreux 10, il est dit « Je sais, ô Dieu, que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu as voulu un corps ». Me voilà. Et il a accepté de devenir chair comme nous. La Bible nous montre au travers des évangiles que Jésus-Christ a souffert la faim, la soif. Il a été fatigué. Il a pleuré. Il s'est réjoui. Il s'est mis en colère. Il a été tenté comme nous. Il a souffert comme nous. Le voilà parfait, 3 fois 5. Et ce verset de 2 Corinthiens 5, 21 me dit, voilà. Il est devenu péché pour toi. Autre chose aussi. La Bible dit dans Galates chapitre 3, 13, qu'il est devenu malédiction pour moi. C'est moi le maudit. C'est vous, sans doute, si vous le reconnaissez, je le crois. Mais c'est moi le maudit. Mais la Bible dit, Galates 3, 13, qu'il est devenu malédiction pour moi. Et en devenant malédiction pour moi, en voyant cette malédiction sur lui, alors Dieu l'a frappé à ma place. Mais je pense aussi à cette prière sacerdotale de notre Seigneur dans Jean 17. Et il a dit, je ne veux qu'aucun se perde. Alors j'accepte. Et il est allé jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on peut proclamer qu'il est le sauveur du monde. Mais est-il ton sauveur? Mais bien sûr qu'il est le sauveur du monde entier. Mais il veut qu'il devienne le sauveur personnel de chacun. Mais il est vrai qu'il n'y a aucune race, aucun peuple, aucune nation qui exclut du salut de Dieu. Parce que Christ a pris la place, le substitut de tous les milliards d'hommes qui sont déjà passés sur terre et qui sont maintenant 6 milliards et quelques dans le monde. Il a pris la place de chacun. Est-ce qu'il a pris ta place? Est-ce qu'il est ton substitut? Alors, je comprends maintenant, voyant Jésus-Christ revêtu du péché, étant devenu malédiction, voulant aller jusqu'au bout pour sauver tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il détourne le regard de lui. Je comprends pourquoi il y a ce cri de détresse sur la croix de Jésus-Christ, où il dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ressent que Dieu l'abandonne, et il se retrouve seul pour combattre et être plus que vainqueur du péché. Est-ce que plus que vainqueur de l'enfer, plus que vainqueur du monde? Et il va triompher. Le voilà à ma place. Il triomphe à ma place. La Bible dit dans Romains 3, 25, il est devenu une victime expiatoire pour tous. Ça y est. Maintenant, ce péché qui était là peut être ôté une fois pour toutes. Nous sommes en train de commencer des études bibliques dans l'évangile de Jean dans notre église. On est resté pendant des années dans l'évangile de Matthieu et puis tout d'un coup, évangile de Jean. Alors, on est au chapitre 1 et on s'est arrêté déjà deux fois sur cette exclamation de Jean-Baptiste, Jean 1, 29 et Jean 1, 35, excusez-moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Et alors, on a regardé cela en profondeur, ôté, expié, enlevé, alors que tout était couvert auparavant. Il fallait que, la Bible dit, et j'ai relu ces passages de Hébreux 10, verset 3, verset 10, verset 13, verset 12, où il est dit, il y avait une impossibilité de que tous les boucs, tous les agneaux, tout ce qui était sacrifié, Hébreux 10, 3, puisse avoir ce ministère de ôter, d'enlever. Et c'est le sang précieux de Christ qui ôte et qui nous purifie de tout péché. Et alors voilà ce qui va se passer à partir de ce moment-là. Et vous connaissez ce passage, mais il est bon de le relire ce soir. C'est que ce sacrifice, il est dit, c'est une fois pour toutes. Et alors, je relisais ce verset 11. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et je lis un peu plus loin ici. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, alors il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est-à-dire que ce sacrifice, il y a presque 21 siècles, est toujours là. Est-ce que quelqu'un veut être sauvé ce soir? C'est toujours au pied de la croix. C'est toujours en implorant ce sang de Christ que tu peux être sauvé. Il n'y en a pas d'autre, c'est une fois pour toutes. Ça y est. Il a pris ma place une fois pour toutes. Il est vraiment ce substitut. Il est là. Alors, maintenant je comprends. Je comprends ces versets hein, qui me parlent d'être sauvé, d'être justifié, de la rançon de être justifié par lui. Ça y est, je le suis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et voilà le dernier passage que je voudrais lire avec vous. Et ça, c'est Galates chapitre 2. Prenez ce passage. Galates, chapitre 2. Voilà Paul, de quelle manière il s'exprime. Paul dit, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. » Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je notais les quantités de versets qui montrent Christ qui se livre pour moi. Est-ce que vous vous rappelez d'une des définitions du substitut? Il faut que ça soit volontaire. On ne désigne pas quelqu'un, il faut que la personne elle-même. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire que j'ai racontée de ces deux frères? De lui-même, il y va. Il prend la place d'eux. C'est ça. Vous savez, Dieu, c'est incroyable. Dès le début de l'humanité, il a pensé toujours à sauver l'homme. Et s'il le condamne, il pourvoit toujours à la place que quelqu'un d'autre meure pour lui. Je m'explique. Je commence tout simplement par Genèse 2 et Genèse 3. Dieu dit à Adam et Ève, le jour, je t'avertis, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Les jours passent, on ne sait pas combien de temps, et ce fameux jour arrive. Il mange. Est-ce qu'il va mourir? Oui, spirituellement, mais il va continuer à vivre. Et à la place, qui va mourir? Des animaux que Dieu va tuer. Il va leur faire des habits. C'était eux qui devaient mourir. Tu mourras. Mais Dieu va sacrifier des animaux à leur place. Mais tu vas mourir. Et il n'y a plus cette communion avec Dieu. Elle est brisée, elle est rompue. Il n'y a plus cette communion. Maintenant, il faut que tu travailles, il faut que tu luttes, il faut que tu avances, il faut que tu mettes ta confiance en moi. Tu mourras, oui, d'accord. Mais voilà que c'est un agneau ou un animal, peu importe, on ne sait pas très bien, que Dieu a sacrifié à la place d'eux. Et tout le long de la Bible, vous l'avez vu avec Abraham, Isaac, jusqu'à Apocalypse, Dieu pourvoit toujours un moyen de salut pour l'homme. Et on arrive au dernier, puisque nous venons de lire dans Hébreux 10 que, une fois pour toutes, ce sacrifice de Christ compte pour toujours. C'est le seul. Alors maintenant, si tu veux être sauvé, voilà ce que Christ a pris ta place il y a 20 siècles. Et alors Paul l'a très bien compris. Mais voilà ce qui se passe aussi ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est que Paul dit bien, Christ s'est livré pour moi, donc il s'est donné pour moi, il est devenu mon substitut. Mais qu'est-ce qu'il réalise, Paul? Ce que j'ai du mal à accomplir tous les jours, et sans doute vous aussi, c'est d'être toujours mort à moi-même. Et cela, Paul l'avait compris. C'est-à-dire que Paul avait dit, voilà son raisonnement, il a dit, Christ, oui, il a pris ma place. Maintenant que je suis sauvé, moi je vais prendre la place aussi. Et je veux être crucifié. Et je veux que ce soit lui qui vive. Moi je veux mourir à moi-même. Et c'est Christ qui doit vivre au travers de moi. Et ça, Paul l'a compris. Et ça, c'est un des derniers points de cette signification de la substitution. Est-ce que je continue à vivre de moi-même? Ou est-ce que c'est Christ qui vit au travers de moi? Je crois que c'est important dans des moments de convention biblique de se le dire. De dire, est-ce que je vis encore? Est-ce que j'ai encore mes voix, mes pensées? Ou est-ce que c'est Christ qui vit? Est-ce que plusieurs, pendant cette convention, nous allons dire, oui Seigneur, je veux vraiment mourir, moi aussi, à moi-même. Je veux que toi, tu vives, c'est toi le substitut. Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux, de baisser vos têtes ?